Vous écoutez RFI à Accra, il est 5h30, 6h30 à Cotonou. Même heure à Paris. Bonjour Édouard Dupénoat.
Bonjour. L'actualité africaine et ses discussions entre la République démocratique du Congo et les États-Unis sur les minerais rares dans l'est du pays. On en est qu'au stade des pourparlers, mais la diplomatie américaine confirme bien leur existence. Laisser Washington creuser et exploiter ces minerais critiques. Mais ces minerais qui se trouvent pour certains dans des zones sous la coupe du groupe armé du M23. La justice tchadienne poursuit finalement 4 personnes pour intelligence avec une puissance étrangère. Parmi elles, le journaliste Olivier Monodji, mais son avocat assure qu'il y voit à peine plus clair. La tombe d'Ernest Ouandié profanée au Cameroun, cette figure de la lutte armée au moment de l'indépendance. Il fait l'objet d'une polémique dans la presse depuis plusieurs jours, mais ses descendants se disent bouleversés. Et puis la suite et la fin hier de l'opération séduction du Ghana vers l'AES. John Dramani Mahama était à Ouagadougou, Accra qui voit aussi midi à sa porte dans cette affaire. La sortie des frondeurs de la communauté ouest-africaine ne fait guère les affaires du Ghana. Les États-Unis sont donc prêts à s'asseoir autour d'une table avec la République démocratique du Congo pour discuter des minerais rares dans l'est du pays. Le département d'État confirme que des discussions sont bien en cours, même s'il ne s'agit pas encore d'une quelconque forme d'accord. Washington, alléchée, elle aussi, par l'abondance des minerais dits critiques, fondamentaux pour la transition énergétique et les nouvelles technologies, avec tout de même un écueil, plusieurs de ces gisements se trouvent dans des zones en partie occupées par le M23, soutenues par le Rwanda. Guillaume Nodin est à Washington.
Ce ne sont encore que des discussions exploratoires, mais elles existent officiellement. La diplomatie américaine le confirme à au moins 2 médias, l'agence Reuters et le Financial Times. Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariats dans ce secteur qui sont alignés sur l'agenda America First de l'administration Trump, dit un porte-parole du département d'État, qui note que le Congo détient une part importante des minerais critiques nécessaires aux technologies de pointe. Parmi les minerais concernés, il y a le cobalt, le coltan ou encore le lithium. Le problème, c'est que les gisements sont dans l'est du pays, actuellement en grande partie occupés par le mouvement Alliance Fleuve Congo M23, soutenu par le Rwanda, que les autorités de Kinshasa accusent de contribuer au pillage et à l'exploitation des minerais rares. La proposition de discussion vient de Kinshasa, qui a bien noté l'intérêt américain pour les ressources en minerais et terres rares. Elle a été exprimée par le président Félix Tshisekedi lui-même dès la fin février. La proposition ressemble d'ailleurs beaucoup à l'accord actuellement en discussion entre les États-Unis et l'Ukraine, qui donnerait un accès à des intérêts américains aux minerais en échange de garanties de sécurité. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'actualité politique congolaise, ce sont ces cadres du PPRD, le parti de l'ancien président Kabila, qui ont été entendus hier pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Aubin Minaku, le numéro 2 du parti, son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari ainsi que son adjoint Ferdinand Cambéré ont été auditionnés séparément. On rappelle que les autorités soupçonnent ces hauts responsables ou leur parti de collusion avec les rebelles du groupe armé du M23, ce qu'ils ont démenti d'ailleurs, mais rien n'a filtré d'autre de ces auditions. Les principaux concernés n'ont pas fait de déclaration à leur sortie. J'ajoute ce naufrage survenu toujours en RDC la nuit dernière sur la rivière Kwa, près du territoire de Mouchié dans la province du Maïndombé dans le sud-ouest du pays. Plus de 25 morts, plusieurs disparus aussi, mais 30 personnes rescapées, disent les autorités. L'embarcation transportait des joueurs d'un village qui revenait de la cité de Mouchié après un match de football. L'embarcation avait quitté le port vers 23h, elle a chaviré après une dizaine de kilomètres de navigation. 4 personnes placées sous mandat de dépôt et incarcérées hier au Tchad, annonce du procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Elles sont suspectées, entre autres, d'intelligence avec une puissance étrangère. Parmi ces 4 personnes figurent 2 journalistes, dont Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, et par ailleurs correspondant de RFI. Ce sont des articles parus dans son journal qui lui vaudraient ses poursuites judiciaires. Le journaliste, on le rappelle, a été arrêté mercredi dernier, mais il n'a appris qu'hier ce qui lui était reproché. Son avocat continue toujours de dénoncer des charges très floues à son encontre. Précision Esdras Dikoumana.
Le procureur de la République près le TGI de N'Djamena a précisé dans sa courte déclaration aux médias tchadiens Al-Wida Info ce qu'on reproche aux 4 inculpés, des charges très lourdes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Après leur interrogatoire, il a été constaté que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d'infractions, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Eu égard à la gravité des faits, Une information judiciaire a été ouverte pour citer la responsabilité de tout un chacun.
Les quatre hommes ont ensuite été entendus par le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour intelligence avec l'ennemi et pour complot ou encore atteinte à la sécurité du territoire national qui est passible d'une peine de 20 à 30 ans de prison selon un des avocats d'Olivio Monoggi. Celui-ci dénonce un dossier vide à ses yeux, Maître Amos Alata.
On attendait qu'il nous dise le degré d'implication de notre client qui est journaliste de profession. Nous lui avons rappelé qu'à la police du judiciaire, on lui a présenté que des coupures de presse dont il a reconnu la publication dans son site du journal Le Pays. Des informations qui ont un caractère plutôt publicitaire. Mais on n'a pas dit qu'est-ce que M. Olivier a fait concrètement.
La mission du doyen des juges d'instruction, approfondir celle-ci pour situer la responsabilité de chacun des mises en cause. En attendant, tous les quatre ont été placés sous mandat de dépôt et acheminés vers la maison d'arrêt de Klessoum pour y être incarcérés.
Esdras Dikoumena, une nouvelle audition est d'ailleurs prévue après-demain. La promesse d'une coopération encore accrue entre le Maroc et la France. Gérald Darmanin terminait hier 2 jours de visite dans le Royaume. Le ministre français de la Justice a rencontré son homologue ainsi que plusieurs cadres du système judiciaire marocain. De justice qui coopèrent déjà dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et qui promettent donc de se rapprocher encore davantage, Mathias Reynal.
C'est la deuxième visite de Gérald Darmanin dans le Royaume en moins d'un an. Au micro des journalistes, il a salué l'excellence des relations entre Paris et Rabat. Sans le travail du Maroc, la France serait moins sûre, a même lancé le ministre de la Justice qui a rencontré certains des hauts responsables du système judiciaire marocain, le premier président de la Cour de cassation, mais aussi le procureur général du roi près la Cour de cassation. Aux côtés de son homologue marocain Abdelatif Wahbi, le ministre français de la Justice a conclu sa visite hier par la signature d'une déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Paris et Rabat réaffirmant dans ce texte leur volonté d'intensifier les efforts dans ces deux domaines. Le Maroc fait figure de partenaire privilégié. À la fin du mois de février, 2 Français ont été arrêtés à Marrakech, soupçonnés d'avoir participé à l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. Gérald Darmanin a dit espérer leur extradition dans les prochains jours. En janvier dernier, le Maroc a livré également à la France Félix Bengui, le chef présumé du clan Yoda, l'un des principaux gangs de narcotrafiquants marseillais. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Il est 5h37 à Casablanca, 6h37 à Yaoundé, sur RFI toujours, le Cameroun, où la tombe d'une figure de l'indépendance a été profanée la nuit dernière, celle d'Ernest Ouandié, qui repose au cimetière protestant de Bafoussam, dans l'ouest du pays. Il était l'une des figures de l'ANLK. Le président Paul Biya l'avait d'ailleurs élevé au rang de héros il y a de cela plus de 30 ans, mais ces dernières semaines, une controverse médiatique s'est fait jour à son sujet et à celui de son mouvement, controverse qui semble donc avoir pris une tournure plus violente. Les héritiers d'Ernest Ouandié se disent choqués, Richard Onanena.
Des carreaux brisés, une partie de la tombe endommagée, les images de la profanation ont consterné les internautes camerounais. Pour la famille d'Ernest Ouandié, cet acte est avant tout un manque de respect. Philippe Ouandié est le fils du militant nationaliste.
L'auteur de ces actes, ou les auteurs de ces actes, ils ne mesurent pas la portée de l'acte qu'ils ont posé. La tombe est un lieu de repos pour ceux qui nous ont précédés. Et aller profaner leur tombe, c'est leur manquer de respect. C'est un manque de respect même à la nation qui a reconnu mon père comme héros national.
Cette profanation survient quelques semaines après un débat dans les médias sur la pertinence de la lutte menée par l'Armée nationale de libération du Cameroun, ANLK, sous l'impulsion d'Ernest Ouandié entre 1960 et 1971. Un homme politique n'a pas hésité à traiter le nationaliste de bandit. À l'UPC, le parti politique dont il fut l'un des leaders, on dénonce des thèses révisionnistes et négationnistes programmées pour nier la valeur et le sens de la lutte pour la libération du Cameroun. Des propos à l'origine de la profanation, selon Robert Bapolipot, secrétaire général de l'UPC.
Le discours véhiculé au niveau des plateaux de télévision vise à réveiller des blessures qui jusque-là ont pu être maîtrisées dans une volonté d'unité et de réconciliation.
Comme ses compagnons de lutte, Ernest Ouandié a été élevé au rang de héros national par le président Paul Biya en 1991. C'était 20 ans après son exécution à Bafoussam. Après plus de 10 ans de lutte armée pour l'indépendance totale du Cameroun. Richard Onanina, Yaoundé, RFI.
Le dernier de trois déplacements pour le président ghanéen, John Dramani Mahama, reçu hier à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Ils promettent l'un comme l'autre d'accroître leurs échanges bilatéraux, de créer un gazoduc entre les deux pays, ainsi qu'une liaison aérienne quotidienne entre Ouagadougou et Accra. Le dirigeant ghanéen était avant cela à Niamey et à Bamako pour essayer de renouer un peu le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la CDAO. Mais plus prosaïquement, Accra y voit aussi ses propres intérêts. La sortie des trois pays de la communauté économique peut avoir des conséquences très concrètes sur l'attractivité de sa façade maritime, Claire Fage.
C'est une préoccupation pour le nouveau président John Dramani Mahama. Le Ghana ne faisant pas partie de la zone de libre-échange de l'UMOA, il lui faut conclure des accords bilatéraux avec les pays de l'AES qui ont quitté la CDAO. François Giovalucchi, expert de la zone franc.
Autant l'AES et les autres pays de la zone franc appartiennent toujours à la même zone de libre-échange, la question se pose pour le Ghana et le Nigeria. Donc, pour un pays côtier comme le Ghana, il a intérêt à trouver des solutions pour calmer le jeu et faire en sorte que, par exemple, ses échanges avec le Burkina Faso ne soient pas taxés.
Il s'agit en particulier pour le Ghana de maintenir le rang de son port, Tema, vis-à-vis des ports concurrents de la CDAO. Yann Alix, expert du transport maritime.
Aujourd'hui, on a une vraie bataille des corridors avec trois grandes clés d'entrée que sont Abidjan, Tema et maintenant Lomé. Sur Burkina Mali, vous avez une triple option pour les chargeurs et pour les organisateurs de transport. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, avec l'ouverture du deuxième terminal à Abidjan, Tema avance beaucoup moins vite.
Pour préserver ce trafic de transit à Tema, les autorités ghanéennes ont déjà accordé un allègement de redevance aux chargeurs burkinabés en décembre, tandis que les autorités de Ouagadougou annoncent avoir acquis un dépôt d'hydrocarbures sur le port ghanéen.
Claire Fage du service éco de RFI. Le procès au Bénin de Steve Amoussou se prolongera encore. La Criette faisait comparaître hier cet homme, suspecté d'être derrière le pseudo de Frère Unvi, ce compte anonyme qui publiait des pamphlets audio très critiques de la gouvernance du président Patrice Talon. Il est poursuivi pour provocation directe à la rébellion, publication de fausses nouvelles, harcèlement par voie électronique, sauf que le prévenu assure qu'il n'est pas ce fameux Frère Unvi. Prochaine étape d'ici un mois et une audience animée hier que nous raconte Jean-Luc Aplogan.
Steve Amoussou est appelé à la barre en milieu d'après-midi. Cheveux courts, polo blanc et gilet de détenu, il se tient droit sur le pupitre. Après avoir indiqué qu'il travaillait dans la production audiovisuelle, la question que tout le monde attendait arrive. « Êtes-vous le frère Unvi ?» lui demande la cour. « Ce n'est pas moi. » Le ministère public lui fait remarquer qu'il avait pourtant reconnu être frère Unvi. « Pourquoi vous changez ?» lui demande le procureur. « Vous m'avez mal compris, » explique Steve Amoussou. Le procureur ajoute un détail. Depuis qu'on vous a arrêté, il n'y a pratiquement plus de chroniques. Il l'interroge sur la liberté, la démocratie, le respect, la République, le contrat social. Steve Amoussou fait ses réponses. Son conseil maître Aboubacar Baparapé s'emporte et interrompt la séquence en ces termes. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. Steve Amoussou et ses avocats déclarent qu'ils n'ont toujours pas vu le plaignant. Réplique du procureur, c'est le parquet qui poursuit. La cour renvoie la suite au 7 avril. Steve Amoussou reviendra pour la 6e fois devant ses juges depuis sa mise en examen en août dernier. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Cotonou, oui.